brouillon de lecture. Brouillon de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer pour vous donner envie de le lire à votre tour, et ce, tranquillement et confortablement installé dans votre canapé, par la lecture d'extraits faits par Hervé Pérol. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Peux-tu nous dire quel est le titre du roman que tu vas nous lire aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous lire des extraits d'un roman, mais plutôt une suite de récits. Récits regroupés sous un titre, L'Amérique m'inquiète et autres récits de Jean-Paul Dubois.
Jean-Paul Dubois, un auteur que tu connais bien.
Un auteur français. Oh, que je connais bien. Ah oui, tu me demandes de parler de l'auteur.
Eh bien,
on va commencer par ça. Tiens, je vais vous lire ce que Jean-Paul Dubois a dit à propos de lui-même. « Je suis venu à l'écriture car c'est le moyen de gagner ma vie le moins douloureusement possible. »
On pourra en discuter.
Effectivement, c'est un peu particulier. Il ajoute même plus loin que « l'écriture, ce n'est pas plus important que le rugby. »
Il est du sud-ouest, je crois. Hein.
Oui, je crois qu'il est de Toulouse.
Pour tenir ses propos, il doit être du sud-ouest.
C'est rare d'avoir un auteur comme ça qui peut avoir des propos si
distanciés
par rapport à lui-même. Oui,
oui.
Effectivement.
Fois,
et pourtant, Jean-Paul Dubois, c'est un grand, hein, c'est un grand auteur. Il en est à son 16e roman. Puisqu'il a même publié son dernier roman au mois d'août, roman qui s'appelle, il faut que je retrouve, Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Je reconnais et me demande pas, je ne l'ai pas lu encore ce roman, mais les critiques que j'ai entendues sont absolument dithyrambiques.
Très bien. Et donc le livre d'aujourd'hui ?
Le livre d'aujourd'hui, oui.
Qu'est-ce que tu nous parle de l'Amérique.
Nous parle. Ah oui, bah, parce que oui.
Bah, il nous livre quelques récits assez significatifs de la vie américaine, non ?
Le livre que je vais vous lire aujourd'hui donc, a été publié en deux fois, je l'ai dit tout à l'heure, et est déjà assez ancien. Le premier tome, la première version s'appelait « L'Amérique m'inquiète » publié en 1996 et ensuite « Autre récit » publié en 2002. Donc sachez, chers auditeurs, effectivement, que les récits que vous allez entendre ont déjà une vingtaine d'années d'âge. Certains peuvent dater un petit peu.
Mais ils n'ont pas pris une ride.
Ouais, ça, vraiment, on peut le reconnaître.
Eh bien, je pense qu'il est temps de commencer.
Oui, si, je voulais... Ah, c'est au point aujourd'hui. Je voulais rajouter que Jean-Paul Dubois dit ma façon d'écrire, j'écris pour faire de la politique. Et vous allez constater effectivement que les récits qui vont suivre sont particulièrement engagés et pas à l'odeur de l'Amérique. C'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, parce que ce n'est pas le rêve américain qui nous décrit.
Ah, tout à fait.
C'est plutôt l'envers du rêve. Loin.
Bon, ben alors je crois qu'on peut commencer. Dominique, jingle. Votre sida m'intéresse. Il ressemble à un homme qui sourit. Quelqu'un qui croit qu'il a la vie devant lui parce que le jour se lève et qu'il serre entre ses mains le dernier moulinet de chez Mitchell. Il ressemble à un homme confiant, pénétré de l'idée de pouvoir tirer de l'eau tous les flétans du Pacifique. Un peu plus haut, sur la corniche du Camino, il a garé sa Chrysler New Yorker qui, sur ses pare-chocs, porte cette inscription « Le travail, c'est pour les types qui ne pêchent pas ». Et depuis qu'il est gosse, Glenn pêche. Il ne se souvient pas d'être venu sur Terre pour autre chose. Il est toujours à traîner dans l'un des coins de la baie de San Francisco, le matin, le soir, que la brume monte ou que tombe la pluie. Et quand sa canne de fibre s'arrondit, que le fil se met à danser, il répète les gestes que son père lui a appris. Et quelque chose s'anime dans sa poitrine, lui faisant éprouver le sentiment qu'il ne sera jamais malade tant qu'à l'autre bout de la ligne, les poissons s'intéresseront à lui. Glenn est né en 1954. Il est atteint du sida. Il est au stade qui s'appelle épanoui, c'est-à-dire vers la fin. les calculs des statisticiens lui accordent 14,6 mois de vie. Il devrait mourir durant l'hiver de l'année prochaine. Glenn est au courant de son état de pronostic. Il sait qu'à partir d'aujourd'hui, il lui reste au mieux 600 ou 700 poissons à pêcher et que dans les derniers temps, ce sera même très difficile de remonter la prise. Il sait aussi que quelque part dans le pays, un homme qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vu, attend cette échéance avec une certaine impatience. Car le jour où Glenn disparaîtra, l'inconnu empochera les 100 000 dollars de son assurance vie. Grâce à un intermédiaire, Glenn la lui a vendue pour 60 000 dollars en liquide, il y a moins d'un mois. L'investisseur a fait un placement sans risque, lui garantissant un bénéfice de 40 000 dollars en un an. Glenn dit qu'il pense souvent à cet homme, en se demandant s'il a une femme, des enfants, s'il est croyant et à quoi ressemble sa maison. Il dit qu'il ne lui en veut pas, au contraire, que c'est la règle du jeu et qu'il l'a acceptée. Il a misé sur ma mort, mais c'est grâce à lui que je suis là. Tout ça ne regarde personne, sauf lui et moi. Glenn relance sa ligne. Le moulinet fait un bruit de pédalier, de vélo bien huilé, et le plomb, loin, pénètre dans l'eau froide. Glenn allume une cigarette. Dans un an, ou peut-être avant, c'est moi qui me débattrai à l'autre bout. Il y a des histoires qui vous cassent en deux, qui vous font douter de tout un tas de choses. Celle-ci en est une. Elle raconte comment des hommes et des compagnies apparemment respectables spéculent sur des mourants et gagnent des millions de dollars grâce au sida, en versant aux malades, en phase terminale, entre 50 et 80% de la valeur de leur assurance vie et en percevant la totalité au moment de leur décès. On peut appeler ça un « viatical settlement » ou un placement à taux d'intérêt compassionnel, ou encore l'ultime barbarie des zoos du profit. Pour simplifier, disons que tout commence un soir à San Francisco dans une chambre d'hôtel exotique à 75 dollars la nuit, avec des pigeons sur la fenêtre, des voisins asiatiques, pour ne pas dire chinois, qui crient dans les couloirs, et dans la rue du brouillard de mer. En feuilletant la presse gay de la ville, on tombe sur une publicité qui dit « La société Living Benefits est en mesure de soigner l'un des pires effets secondaires du sida, les problèmes financiers. Votre assurance vie peut vous procurer une rentrée d'argent liquide pour vous payer vos soins, vos frais de maison ou simplement vos vacances. Nous pouvons vous offrir immédiatement de 55 à 80% du montant de votre police en fonction de votre bilan médical, qui sera analysé confidentiellement par notre équipe de spécialistes. Je vous en prie, appelez-nous. Nous comprenons votre lutte contre le sida. Peut-être pouvons-nous vous aider financièrement dans ce combat. » Ce texte occupe toute la page 28 du BAR, Bay Area Reporter, du 29 octobre 1992. Un peu plus loin dans ce même journal, une autre annonce « Vendre votre assureur vie pour du cash, c'est simple et facile. Si vous êtes à la fin du processus, il est temps d'appeler Steven Simon, président d'America Life Resources. » On prend Sentinelle, un autre hebdomadaire homosexuel de la ville, et on retombe sur des offres similaires. Pour ceux qui souffrent d'une maladie terrible, un soulagement financier est désormais possible. Convertissez votre assurance vie en cash et redonnez à votre existence indépendance et dignité. Téléphonez à Financial Lifetime, Inc. Appel gratuit. C'est comme ça que tout commence un soir d'automne à San Francisco, entre des nippons et des ramiers, assis sur un lit de louage, en lisant d'invraisemblables choses dans le journal. Avant d'éteindre la lumière, on parcourt la liste des avis de décès. Tim Fontenot, 33 ans. Stephen Farsing, 40 ans. Charles Thomas Chandley, 38 ans. Et l'on se dit qu'un peu plus tôt dans la journée, les annonceurs du bar et de Sentinelle, ces prospecteurs d'incurables, ont forcément dû faire la même chose, avec une attention redoublée pour savoir si, dans le lot, ils avaient un gagnant. Dehors, en marchant sous le soleil du port, on repense à tout ça, à tout ce qu'ont dit ces personnes. Par exemple, qu'aux États-Unis, une bonne protection sociale coûte une fortune, qu'un traitement contre le sida, très onéreux, que la plupart des malades, comme tous les citoyens, sont surendotés, et qu'à la fin, quasi invalides, incapables de travailler, ils ne peuvent plus honorer les traites de leur maison ou de leur voiture. C'est sur ce processus inéluctable que misent les prospecteurs. Ils ont aussi leurs informateurs dans les hôpitaux de la ville. Schalker n'a-t-il pas dit que tous les centres de soins possèdent une liste de leurs malades avec des indications sur leur état, l'évolution de la maladie et le temps moyen qu'il leur reste à vivre? Quand ils entrent dans la spirale, c'est l'expression qu'a employée Ray, chacun sait parfaitement que la mort surviendra dans les 6 mois. Les soignants, les administratifs sont au courant, les prospecteurs aussi, évidemment. La nuit est tombée comme une pierre. Maintenant, on est assis sur le banc d'une église qui sent la cannelle et dont le nom se prononce comme un éboulement, First Congregational United Church of the Christ. On est assis seul dans cet hémicycle vide face aux 150 choristes de San Francisco Gay Men Chorus. Et dès que la répétition commence, on comprend très vite qu'il ne faut rien perdre de ces instants uniques, qu'on éprouve là des sentiments que l'on ne pourra jamais transmettre, parce qu'ici, dans ce fleuve musical, tout se mélange, la beauté, l'émotion et le courage. Certaines de ces voix ne tiennent que pour un fil, que par un fil. 78 des hommes qui composent cet ensemble sont séropositifs ou atteints du sida. Frank Jackson, le directeur du chœur, est un colosse blind d'humanité. Depuis 12 ans qu'il est là, il a vu partir ses amis les uns après les autres, parfois dans des conditions terribles. C'est pour ça que je n'éprouve aucune animosité envers les investisseurs. Je les vois comme des joueurs, les uns pour lesquels ils misent, les regardent. Ce que je peux vous dire, c'est que je me servirai moi-même de ce système le moment venu. J'admets que tout peut paraître curieux, et je ne sais pas si c'est bien, mais c'est nécessaire. En rentrant à l'hôtel, dans la voiture, on met un enregistrement du chœur réalisé il y a 2 ans, et en écoutant toutes ces voix chanter « How fair this place », on se demande combien d'entre elles se sont tues à jamais.
I woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. Then the walk will I be shaded by the trees, by a meadow of green, for about a mile. I'm headed to town, 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 in style, with all my favorite colors.
Yes, sir.
All my favorite colors.
Right.
My sisters and my brothers see 'em like no other. All my favorite colors.
Say I anticipate a homecoming.
Jean-Paul Dubois écrit aussi dans la préface de ce livre « L'Amérique est sans doute le seul zoo de la planète à laisser errer et divaguer en liberté une pareille variété d'individus exotiques aux idées toxiques et retorses. » Retors, c'est le moins que l'on puisse dire des dirigeants de Tinseltown. Écoutez plutôt. Star à 45 dollars. Tout est dans le titre. Si vous espérez encore faire illusion auprès de vos proches, si vous souhaitez sauvegarder quelques apparences ou conserver l'estime de votre employeur, alors ne descendez pas de votre voiture lorsqu'elle s'arrêtera au bout du parking de Tinseltown, en Californie. Au contraire, verrouillez les loquets et dites au chauffeur de redémarrer, de rouler longtemps et vite, n'importe où vers le sud, et s'il le faut, jusqu'à la frontière du Mexique. Alors seulement vous pourrez sortir de votre voiture et chaleureusement remercier le conducteur de vous avoir tiré d'un mauvais pas en vous épargnant une sévère irradiation de ridicule. De ce point de vue, Tinseltown est une vraie pépite atomique. Si vous avez la faiblesse de succomber à l'attraction de ce parc à thème et de quitter votre berline pour poser le pied sur le velours de tapis rouge de l'accueil, sachez que votre avenir va vous surprendre, car vous venez de le confier à Stuart, l'équivoque maître de cérémonie dans son costume mauve, à des photographes énervés et à leurs flashs agaçants, à des caméramens de télévision et à leurs journalistes poudrés. Tous vous encerclent, vous tâtent du zoom, vous demandent comment s'est passée votre journée de tournage avec Sharon Stone ou votre dernière nuit avec Madonna. Ils vous harcèlent de questions insensées auxquelles vous ne comprenez rien, leurs micros rivés sur vos lèvres, tétant la salive de vos confidences, filmant vos battements de cils puisque votre ticket l'atteste, vous avez payé 45 dollars pour passer pour un imbécile. Pendant ce temps, à grands cris, une petite foule réclamant des autographes vous presse et, en quête d'on ne sait quel miracle, va jusqu'à palper le tissu béni de votre gilet comme si vous étiez l'héritier vestimentaire du Mahatma Gandhi. Enfin, vous voilà propulsé dans le grand hall d'entrée en compagnie de 700 autres pèlerins éberlués qui ont reçu à peu de choses près le même accueil que vous. Vous pouvez maintenant respirer, boire un verre, facturer en supplément, car d'autres épreuves autrement embarrassantes vous attendent. Bienvenue donc à Tinseltown, un nouveau parc d'attractions qui, pendant quelques minutes, fait de vous ce que vous n'avez jamais cessé d'être, une fausse vedette aux véritables airs d'andouille. Tinseltown, la ville étincelante, qui n'est autre que le surnom d'Hollywood, a été imaginé par un ancien directeur de Disney World. Le concept est incroyablement simple, offrir à chacun la possibilité de vivre une soirée des Oscars, d'être interviewé, traité comme une vedette, de passer à la télévision et surtout d'acheter des brassées de souvenirs pour n'oublier jamais qu'une seule fois, mais une fois tout de même, ce soir-là, outre le strass et les lampions, pour 45 dollars... Tinseltown vous offre une arrivée mémorable, un repas mangeable, un spectacle imbuvable et une remise d'Oscar inévitable. Voici comment se passent les choses. À l'entrée, les pseudo-équipes de télévision réalisent de vraies interviews de clients qui servent en fait à repérer les plus loquaces, les plus à l'aise face à la caméra. 4 hommes et 4 femmes seront ainsi choisis puis présentés comme les nominés de la soirée. Durant le repas, leur arrivée sur tapis rouge et leurs premiers mots devant les caméras sont diffusés sur les écrans géants de la salle. Eux, pendant ce temps, ont grimpé au premier étage du building pour se soumettre à l'ultime exercice qui décidera de l'attribution de l'Oscar. Dans un studio ultra-moderne, équipés de tous les perfectionnements de la vidéo, ils donnent les uns après les autres et sur fond bleu la réplique à des acteurs tels que Richard Burton, Henry Fonda ou Marlon Brando. le temps d'une scène extraite de films célèbres. Par un procédé de surimpression, nos stars à $45 sont ensuite intégrées à l'image originale de ces films. Leurs prestations sont alors diffusées sur les écrans géants à l'issue du fameux repas mangeable et du non moins imbuvable spectacle. Les animateurs de la soirée montent sur scène, échangent d'immuables plaisanteries de garçons de bain, avant de prendre des airs émus pour décacheter les enveloppes et clamer cette phrase qui ressemble à l'aboutissement de toute une vie « And the winner is !» Ce soir, c'est Miss Judith Murphy, mère de deux enfants, qui a été consacrée meilleure actrice, tandis que Mr. Tony Pinkert, pour sa généreuse nature, se voyait remettre l'Oscar du meilleur rôle masculin. Comme chaque fois dans la salle, la foule des pigeons s'est mise à battre des ailes à tout rompre. Judith a pleuré d'émotion, remercié ses parents, sans qui tout cela n'aurait pas été possible, et l'équipe du film qui l'a portée là où elle se trouve. Elle semblait vraiment croire ce qu'elle disait et ses mots vides l'emplissaient d'un bonheur non fin. Tinseltown est désormais décidé à exporter son concept et son savoir-faire, notamment en Europe, en Asie et surtout au Japon dans les tours opérateurs à raffolent de cette attraction au point que chaque soir sur les tapis rouges, un vénérable autobus déverse d'honorables touristes de ce pays qui, vêtus de shorts et chaussés de tongs, se faufilent discrètement entre fourreaux de strass et tuxedos beurre frais. Car il faut savoir que pour venir ici et courtiser la gloire au fond de cette zone de banlieue sponsorisée par Kodak et Pepsi Cola, la plupart des clients louent, le temps d'une soirée, des robes longues et des costumes de cérémonie. Ça ajoute une touche glamour et assure la crédibilité du spectacle, nous glisse Stuart, le petit maître de ballet. Au fait, je vous ai déjà dit que vous aviez l'allure d'un producteur de Hollywood. Je suis très sérieux, vous savez. Et puis, je peux vous l'avouer, j'ai suivi votre carrière depuis le début. C'est très impressionnant. Vous n'avez fait que des bons films. Et puis, comme s'il venait soudain d'apercevoir la fin du monde, d'un brusque coup de jarret dans son complet de lavande fanée, Stuart détale avec l'agilité d'une gazelle. De deux choses l'une, ou bien ce type n'est pas du tout physionomiste, ou alors, sans le savoir, nous venons vraiment de frôler l'Oscar.
Hey, some more,
C'est ça l'Amérique ? Vous vous dites ? C'est pas possible. L'Amérique, c'est beau. Hein, Dominique, tu dois être le premier à me dire « Hervé, non, qu'est-ce que tu nous as choisi comme texte, là ? L'Amérique, c'est pas comme ça. C'est pas possible, l'Amérique.
J'ai peur que si.
C'est beau. C'est riche, l'Amérique. Et puis, il faut pas critiquer Walt Disney. Tout le monde a envie d'aller à Disney World. C'est autre chose, Disney World, que Disneyland à Paris, quand même. Et puis, il y a Las Vegas en Amérique. Ah ben oui, tiens, parlons-en de Las Vegas. Ça fait rêver, Las Vegas. Dominique,
oui.
T'es déjà allé à Las Vegas au lieu de consulter
non.
ton téléphone?
Ah non, et je suis sûr que je n'irai pas avant un moment.
Ah, c'est possible. Bon, ben moi non plus, donc je ne suis jamais à Las Vegas. Et avec ce qui va suivre, ce que je vais vous lire par la suite, là, je ne sais pas si j'ai vraiment envie d'y aller. Hélas, Vegas. Il est bientôt minuit et ils se marient. Elle en blanc, lui en acrylique. $60 la cérémonie, célébrée dans un coin du hall de l'hôtel. Un Howard Johnson démantibulé et oublié dans les fondements du vieux Las Vegas. À ce prix-là, tout est compris. Les odeurs de moisie, les lumières fanées, la moquette louche, l'officiant libanais et surtout la promesse d'un avenir qui n'en finira pas de ressembler à tout ça. Ils sont seuls, l'hôtel est presque vide. Le pire est que tout à l'heure, ils vont devoir remonter dans leurs chambres. Des chambres que l'on loue quand on ne sait plus où aller. Des chambres de perdants, où la télévision, la télécommande, le téléphone, le réveil, la machine à café et même les lampes de chevet sont scellées au mur ou vissées dans les meubles. Parce qu'autrement, tout ça finirait au pawn shop du coin. Ces boutiques de prêteurs qui vous donnent 3 sous de n'importe quoi. Ces grottes véreuses où les joueurs refaits, défaits, viennent nuit et jour gager jusqu'à leurs lunettes de vue. Pour gagner de quoi remettre quelques pièces dans des machines à sous. Peut-être aussi pour ne pas avoir à regarder la suite. Ce qui les attend si vraiment les choses tournent mal. La rue, la main tendue et un matelas de l'armée du salut. Las Vegas n'est pas qu'une verroterie lumineuse incrustée de croupiers en chemise et de touristes en short. Cette ville est aussi devenue un trou noir pour près de 10 000 sans-abri qui errent le jour et rôdent la nuit en quête d'un copec, d'un quarter ou d'une dîme. Nombre de ces homeless ont été ruinés par le jeu. Mais bien que dépouillés de tout, sans travail, abandonnés par leur famille, ils continuent de rester là, aimantés par la ferraille, traînant autour des lumières des machines à sous, pareilles à des phalènes. Il y a bien longtemps qu'ils ne fréquentent plus les grandes enseignes du strip, jouant seulement quelques pièces par-ci par-là dans des établissements de troisième zone. Les casinos n'aiment pas trop ces anciens clients qui donnent de la ville une image peu attrayante. Ils n'aiment pas voir mendier ou traîner ces habitués qu'ils ont lessivés jusqu'à la corde. Alors, pour les éloigner des Caesars, Bellagio et autres lieux d'aisance, l'industrie du jeu s'est résolue à prélever quelques babioles sur les 9 milliards de dollars qu'elles empochent chaque année et à subventionner plusieurs associations caritatives, comme le MASH, village, sorte de refuge sous tente où l'on peut manger, dormir et recevoir quelques soins. Laura Cherry occupait autrefois un poste de relations publiques au célèbre casino Mirage. Aujourd'hui, hôtesse d'un inframonde, elle œuvre pour le MASH. J'y retrouve parfois d'anciens clients, des gens qui, il n'y a pas si longtemps, menaient une vie normale. Ici, les choses vont très vite, les ascensions comme les chutes. La ville n'est pas le paradis que l'on croit. Bien sûr, Las Vegas est la cité qui, en Amérique, grandit le plus vite. Mais c'est aussi l'endroit où des dizaines de homeless meurent de froid en hiver. D'autres, comme Grant Thornton, survivent jour après jour dans des refuges de l'armée du salut. L'année dernière, Thornton, 61 ans, dirigeait une entreprise de construction, avait une famille solide, un confortable bateau et un puissant véhicule 4x4 pour emmener ses amis dans le désert. Aujourd'hui, ruiné par le jeu, abandonné de tous, il fait la queue dans des refuges pour prendre sa douche ou attendre son repas. Les casinos détestent que l'on colporte ces histoires, finalement assez courantes, de types qui ont joué ou perdu leur vie à la roulette, aux cartes ou aux craps, et qu'en fin de partie l'on retrouve roulé en boule sous la voûte d'un pont. Terry Robinson est responsable du premier centre que l'armée du salut a ouvert pour traiter ces drogués du pari. Le tiers ou la moitié des sans-abri de cette ville sont dépendants du jeu. Il faut les considérer comme des drogués qui ont besoin d'une dose de risque de plus en plus élevée pour atteindre le frisson. Ceux que l'on recueille ici sont en bout de course. Et pourtant, je les vois souvent partimiser leurs dernières pièces. Et vous savez ce que font certains avant de se rendre aux machines à sous ? Ils se changent pour enfiler ce qu'ils appellent leur « pantalon chanceux », ce jean avec lequel ils ont autrefois gagné quelque chose. Johnny Barbamiza, 45 ans, lui, essaye de sortir de ce cycle depuis des mois. Il vit à l'armée du salut sur un carré de matelas et porte tous ses biens sur lui. Un t-shirt et un short. Avant, vous savez, j'habitais à Chicago. J'avais une maison, deux voitures, une famille. Je portais des chaussures de marque et je mettais du parfum Cartier. Et puis, je suis venu ici et l'enfer a commencé. Je me suis mise à jouer et à perdre et à rejouer. Aujourd'hui, je suis un zéro. Ma femme m'a mis dehors il y a 5 ans. Mon frère, qui a une entreprise de fenêtres en ville, ne veut plus me voir. Je n'ai plus d'amis et il y a si longtemps que je n'ai pas revu mon fils que je serais incapable de le reconnaître. 100 fois j'ai juré sur la Bible que je ne jouerai plus. 100 fois je me suis retrouvé sur le tapis de craps. Il y a trop de néons ici, trop de tentations. Je suis fini. Cette ville est un véritable piège pour les joueurs, dit Gary Dimek, le gérant d'un hôtel. Les machines à sous sont partout. À l'aéroport, dans les postes à essence, les épiceries, les restaurants, les bars, les laveries, les hôtels et bien sûr, évidemment, les casinos. Imaginez que rien que la nuit prochaine, dans les différents quartiers de cette ville, vont se tenir 80 réunions des gamblers Anonymous, soit une vingtaine de plus que dans toutes les assemblées de ce type convoquées le même jour dans le monde entier. En passant devant El Cortez à la nuit tombée, on pense à cette ville vorace, à ces gosiers de néon et à cette histoire qu'un couple fatigué nous a racontée la nuit passée. Il y a à peu près un an, ils étaient venus à Las Vegas pour se marier. Avant la cérémonie, ils sont allés jouer quelques heures au casino. À la fin de la soirée, ils avaient perdu tout ce qu'ils possédaient, absolument tout. Après quelques jours passés dans la rue et à une visite de l'armée du salut, ils se sont installés sous un pont. Depuis, ils passent leur journée à ramasser des canettes de soda et à mendier quelques pièces par-ci, par-là. Mais dès que le soir tombe, côte à côte, ils s'empressent de glisser la moisson du jour dans des machines à poker, dans l'espoir de tirer enfin les bonnes cartes, de se marier, d'enfiler de vrais pantalons chanceux et de quitter à jamais cette ville pour commencer une nouvelle vie. Thank you. C'est horrible ce qu'on vient d'entendre.
Absolument.
Absolument.
C'est
pas la musique, hein ?
Non.
Pas la musique. De... On parle bien du texte avant, oui, oui.
Du bois, bien
ceci dit, les accords de guitare avant, tu te rappelles ce que c'était, Dominique ? Parce que nous, chers auditeurs, on est des anciens. C'était quoi, Dominique ?
C'était l'hymne national.
Oui, mais joué par ?
Jimi Hendrix.
Ah, oui. À Woodstock, en 1969. Parce que vous vous rappelez, là, cet été, hein, on a fêté le cinquantenaire, quand même, de Woodstock. Bon, je reprends mon texte et mon bouquin, quand même. On est là pour ça. C'est horrible, ce qu'on vient d'entendre, donc. Et ça ne correspond pas du tout à l'American Way of Life, dont on nous a seriné les oreilles à l'école ou dans les médias.
Pas tout à fait, non.
Hein, oui. Avec ce bouquin, les Américains tombent vraiment de leur piédestal. Parce que sachez, chers auditeurs, que quand vous écoutez la musique, nous, avec Dominique, on cause. Et on est effarés de ce qu'on vient d'entendre. Effarés. Bref, nous, les Français, on rêve de l'Amérique parce qu'on est loin. Mais l'Amérique, elle a des voisins. Et eux, les voisins, ils savent que leur grand frère est loin de se comporter comme un frère, justement. Ils ne doivent pas les porter dans leur cœur, ce grand frère. Évidemment, il y a des récits sur les problèmes frontaliers entre le Mexique et les USA dans ce bouquin. Mais c'est pas de ce problème de voisinage-là dont on parle beaucoup en ce moment, de la frontière
et du mur
avec le Mexique voulu tant par Trump. Non, c'est d'un autre problème de voisinage dont j'ai choisi de vous parler. La guerre de l'or bleu. Beverly Hills, Californie, été 2002. Des rats qui nagent dans les piscines, qui galopent sur les toits des maisons, courent sur les corridors, viennent se nourrir dans les placards des cuisines. Partout des rats, courageux, conquérants, déjà cossus. Ray Honda, exterminateur californien, bien sûr, n'en finit pas d'exterminer. À Los Angeles, les rats sont désormais plus nombreux que les humains. C'est la sécheresse. Qui les a conduits en ville. Les rivières, les fleuves sont à sec, il n'y a plus d'eau dans la région, ni dans l'ouest d'ailleurs. Alors les rats viennent ici. Magazine US News, 12 août 2002. Dans un dossier intitulé Water Crisis, je l'ai bien prononcé ?
Crisis.
Dans un dossier intitulé Water Crisis, Christy Whitney,
d'accord,
administratrice de l'Agence de protection de l'environnement, déclare « Le plus grave problème que nous allons devoir affronter au XXIe siècle sera celui de l'eau, qu'il s'agisse de sa quantité ou de sa qualité. » Jusque-là, tout allait bien. Les choses étaient simples. L'eau sourdait et l'Amérique pompait. Elle pompait sans cesse, ni dissertement dans les fleuves, les nappes, les lacs, de nuit comme de jour, été comme hiver. Elle pompait pour étancher une chronique et inextinguible soif. L'Amérique a toujours abreuvé sans mesure son industrie, son agriculture, ses golfs, ses pelouses, ses piscines, ses chasses d'eau et ses car wash. Encouragé en cela d'ailleurs par la fameuse saillie bushienne, le niveau de vie des Américains ne se négocie pas, qui à l'évidence s'applique aussi bien à l'irresponsable gestion des eaux qu'à l'usage immodéré des hydrocarbures. Et puis peu à peu, de mauvaises nouvelles ont commencé à arriver. Toutes parlaient des mêmes problèmes, faisant état de la sécheresse dans les États de l'Ouest et du Sud, de l'abaissement du niveau des fleuves, de celui des nappes, du tarissement des sources, des fuites colossales dans les réseaux d'adduction des grandes villes. Et puis surtout, il y avait la situation de Ogallala, la plus grande réserve d'eau douce de la nation, une nappe que l'on disait sans fin, un océan souterrain de 4000 milliards de tonnes d'eau. Cet aquifère s'étale sous le Dakota du Sud, le Wyoming, le Nebraska, le Colorado, le Kansas, l'Oklahoma, le Nouveau-Mexique et le Texas. Presque un quart de l'Amérique. Jusque-là, Ogallala alimentait sans problème toutes les lubies des hommes, leurs grandes zones d'élevage, d'agriculture, d'industrie et même les loisirs. malgré les pompages incessants d'année en année, grâce à l'apport saisonnier des cours d'eau et des pluies, vaille que vaille, la nappe se rechargeait. Il en va désormais autrement. Les cycles naturels ne peuvent plus rien contre les 200 000 puits qui irriguent 3,3 millions d'hectares de terres agricoles, soit le cinquième de la surface cultivée dans le pays, auxquels s'ajoutent les énormes ponctions des usines et des grandes villes. Ogallala se vide à vue d'œil. Selon les spécialistes, elle pourrait s'assécher d'ici à 2030. Et de partout arrivent des informations de même nature, sans doute moins spectaculaires, mais allant toutes dans le même sens. Les États-Unis s'apprêtent à connaître une pénurie d'eau unique dans leur histoire. Cette pénurie pourrait bouleverser l'industrie, l'agriculture, toute l'économie et le style même de ce pays où le gaspillage fait figure de mode de vie. Aux États-Unis, il faut 15 000 tonnes d'eau pour produire 1 000 kilos de bœuf ou de coton. 400 000 litres pour construire une automobile et 4,5 milliards de litres chaque fois que 250 millions d'Américains actionnent les grandes marées de leur chasse d'eau qui font 18 litres. À Tucson, le surpompage s'est intensifié et la profondeur des puits est passée de 150 à 450 mètres. Même dans les faubourgs de la pluvieuse Seattle, la demande est largement supérieure aux réserves. À El Paso, où le climat est beaucoup plus sec, toutes les sources hydriques auront vraisemblablement disparu d'ici à 2030. Dans le nord-est du Kansas, la pénurie est si alarmante que les représentants de l'État envisagent la construction d'un pipeline à partir du Missouri, rivière déjà soumise à un pompage excessif. Long Island puise son eau dans un aquifère à bassin fermé qui s'épuise rapidement et qui est contaminé par les affluents industriels. Voilà donc l'état des choses, un colosse inconséquent et soifard en phase de déshydratation. Or, il s'avère que le Canada, le plus proche voisin des États-Unis, est un autre géant qui, lui en revanche, possède l'une des plus belles ressources hydriques de la planète. De la glace, une infinité de lacs, des sources, des rivières, de grands aquifères. Sachant que l'eau sera le bien le plus précieux du siècle à venir, sa valeur dépassera de beaucoup celle de l'or. D'ici quelques années, le Canada exportera de grandes quantités d'eau douce vers les États-Unis et plus encore par navire-citerne vers les pays assoiffés de la planète. Les pays riches en eau s'uniront comme l'ont fait les pays riches en pétrole du Moyen-Orient et formeront un cartel des réserves mondiales pour faire monter le prix de l'eau comme l'a fait l'OPEP avec le pétrole. Et le Canada sera le souverain de cette alliance. Dans ce bras de fer, pour l'instant velouté, qui pourrait opposer à terme le Canada et les États-Unis, on mésestime souvent l'importance que le Saint-Laurent représente pour l'économie américaine. Ce fleuve, avec ses 3000 km, canaux compris, est en effet la seule voie d'accès reliant l'océan Atlantique au grand centre économique du nord des États-Unis. Par ce chenal transitent tous les bateaux approvisionnant Détroit et Chicago. Le Saint-Laurent est une sorte de Panama septentrional. Longtemps, les Américains ont envisagé de pomper l'eau dont ils avaient besoin dans ce fleuve providentiel. Et puis, ils se sont aperçus que son niveau était au plus bas et que des ponctions supplémentaires rendraient son lit non navigable. À moyen terme, les Américains auront donc à choisir entre la paralysie de leur économie automobile, à Détroit, ou les effets d'une lente déshydratation. Louis-Gilles Francoeur, sociologue canadien, observe aujourd'hui, pour le journal Le Devoir, ces bouleversements écologiques et économiques. Il faut d'abord dire que c'est la première fois qu'une pénurie d'eau à pareille échelle frappe un pays riche. Mais la question préalable me semble celle-ci. Doit-on accepter la boulimie de surconsommation américaine qui s'appuie sur le principe que l'on a le droit de gaspiller puisqu'on peut payer ? Notre idée du confort irresponsable est en train de tuer notre planète. Plutôt que d'essayer de s'emparer de notre eau, les Américains devraient s'efforcer de changer leurs habitudes, aussi bien individuelles qu'industrielles ou agricoles. pour l'instant, de l'autre côté de la frontière, cette perspective n'est même pas évoquée et l'on continue allègrement de pratiquer cette infantile politique de la fuite en avant en imaginant des solutions d'approvisionnement de plus en plus extravagantes, comme ces sortes de remorqueurs capables de tirer d'immenses sacs de plastique contenant des millions de mètres cubes d'eau canadienne, outres géantes flottant on ne sait comment sur l'océan et tractées vaille que vaille vers le sud californien. « Vous savez, conclut Gaëtan Breton, la puissance économique des Américains est telle que nous leur sommes tellement inféodés financièrement qu'avec la complicité du GATT, ils finiront par obtenir ce qu'ils veulent. Ils vont nous prendre notre eau, créer sans que l'on s'en aperçoive vraiment des brèches juridiques, des failles dans notre système. D'est en ouest, il va se produire une succession de fuites. Et à la fin, malgré nous, l'eau finira par couler du nord vers le sud. Et ils ne changeront rien à leur habitude d'irrigation ou de gestion. Pourquoi croyez-vous que tant de compagnies américaines achètent tous ces lacs canadiens ? Quand pour sa consommation d'eau annuelle, un Africain consomme 186 mètres cubes d'eau, un Américain moyen en utilise 1280 mètres cubes. Cela et bien d'autres choses expliquent que sur ce continent, l'eau, élément basique de la vie, est en train de changer à la fois d'essence et de nature. Josefo Courtruveau, ancien administrateur de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, ne dit pas autre chose lorsqu'il déclare « Je suis convaincu que d'ici à 25 ans, l'eau dans ce pays ne sera plus considérée comme une commodité, mais comme un breuvage, au même titre que le soda ou le jus d'orange. » Devant ce fatras d'ineptie, de folie, de projets insensés, confronté à cette gestion irresponsable et ce monde sans tête qui s'en vient au pas de course, on a alors seulement envie d'opposer les dernières lignes si simples et bouillonnantes de vie de Norman MacLean dans son bouquin « Nous étions là assis sur la berge et la rivière coulait devant nous ». Comme toujours, elle se racontait un tas de choses. Et là, elle nous parlait aussi à nous, cette rivière. Il serait difficile de trouver trois hommes assis côte à côte qui comprennent mieux que nous ce que raconte la rivière.
And I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire, you can't start a fire without a spark. This gun's for hire. We're just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. And I ain't getting nowhere. I just live in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know who cares. You can't start a fire, you can't start a fire without a spark. This gun's for hire, even if we're just dancing in the dark. There's a joke, here's some wine, and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up alright. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast star on the night. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a little reaction. Come
Et enfin, parce qu'il faut bien conclure cette émission et cette suite de récits affligeants à propos de la Grande Amérique, j'ai choisi un dernier pamphlet, si tu le veux bien, Dominique, qui traite de l'inégalité entre les gens. Alors là, tu vas me dire, mon pauvre ami, c'est d'un banal. C'est d'un banal. Oui, c'est comme ça. Sauf que là, ça se passe dans le pays le plus riche du monde. Voilà pourquoi j'ai choisi.
Je pense à la phrase de Coluche, ils vont être contents, les pauvres, de savoir qu'ils habitent un pays riche.
Jingle! Misère américaine. Plus tard, lorsque la ville l'aura grandi, il dit qu'il sera pilote dans l'US Air Force. Et qu'il volera dans un avion de chasse et aura son nom inscrit sur son casque et son uniforme. Il s'appelle Dieter Mejia. Plus tard, quand elle quittera la maison, elle dit qu'elle deviendra médecin dans un hôpital du comté, qu'elle exercera aux urgences et que, elle aussi, comme tous les cliniciens, aura son nom imprimé sur sa blouse blanche, Lisbeth Mejia. Voilà donc comment Dieter, 8 ans, et Lisbeth, 10 ans, frères et sœurs si semblables, rêvent d'un avenir agencé dans les coffrets d'un monde parfait. Pour l'instant, affublés de mèches à la brillantine et de prénoms, ils doivent se contenter des approximations de la réalité et s'attacher à grandir sur une maigre coulée de terre où repose leur maison mobile, sorte de caravane aux tôles fanées posées sur des plots de ciment, cale provisoire d'une Amérique précaire. Nous sommes pourtant en Californie, dans un petit campement de mobile home d'une autre époque, longé par le tumultueux Freeway 710 et la bourdonnante route de Florence. De jour comme de nuit, on entend rouler le torrent continu des automobiles. À la fin de l'après-midi, les familles sortent sous leurs auvents pour prendre le frais dans l'air bleuté par les hydrocarbures. Quand on vit ici, même si on essaye de faire bonne figure, c'est qu'ailleurs tout est trop beau, trop grand, trop cher. Alors Dieter et Lisbeth grandissent au bord des routes, entre un père chauffeur de bus à temps partiel et une mère au foyer qui ne peut plus travailler depuis qu'on lui a enlevé un rein. Ils grandissent avec juste ce qu'il faut de nourriture et de distraction pour finir par entrer dans les statistiques les plus ahurissantes que l'on puisse imaginer dans ce pays. En Californie, État immensément riche, troisième économie de la planète, représentant à lui seul 3% des immatriculations automobiles mondiales, un enfant sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté. Ils sont ainsi plus de 1,8 million auxquels le nécessaire fait défaut. Le seuil de la pauvreté en Californie, une famille de 4 personnes l'atteint lorsqu'elle doit vivre avec un revenu annuel inférieur à 17 000 $, ou encore lorsqu'une mère et son enfant disposent de moins de 11 000 $ par an. Dans ces infinies banlieues comateuses de Los Angeles, même les plus petits des logements sont hors de prix. Pour le modeste caravane, les Mejia payent un loyer annuel de 6 600 $, plus les taxes. Ça fait beaucoup d'argent pour vivre dans bien peu de place et disposer de si peu de confort. Susanna, la mère, regarde ses enfants faire leurs devoirs. Sergio, le père, raconte leur vie. Ce n'est pas facile une existence comme ça pour les gamins. Ils essayent de s'adapter à notre situation. On leur donne tout ce qu'on peut, mais on ne prend pas de vacances. On n'a jamais quitté l'État. En été, les gosses vont passer un mois dans ma famille à Mexico, mais moi, je reste ici et je prends tous les boulots qui passent pour gagner de quoi leur payer une bonne école. Dans ce pays, il faut travailler dur pour s'en sortir. Parfois, je suis triste quand je vois les écarts qu'il y a entre les enfants des pauvres et ceux des riches. Mais de toute façon, je me dis que c'est quand même mieux qu'au Mexique. Maintenant, nous voici dans un autre monde, à des années-lumière de la misère. Beverly Hills, la ville des jaguars, des chiens exotiques, des âmes bien nées et des enfants choyés. Dave fête aujourd'hui son 9e anniversaire. Ses parents sont en plein divorce. Aussi, pour atténuer le traumatisme que leur séparation pourrait provoquer chez leur fils, ils ont décidé d'organiser en ce jour une grande partie pour Dave et ses amis. Quelque chose qui, avec les divers spectacles et les fantaisies du traiteur, devrait tourner autour des 15 000 $, plus une réplique d'une petite Ferrari à moteur d'une valeur de 18 000 $. Plus tard, quand on racontera tout cela dans la famille, Mejia, le père lissera ses paupières comme après un éblouissement, puis dira simplement « S'ils ont l'argent, ils ont le droit, c'est leur façon d'aimer. Si j'avais de la fortune, je ferais peut-être la même chose. » Maintenant, avec ce que lui accorde l'aide publique, Marina Cordoba finit de préparer un repas pour 7 personnes, tandis que dans l'odeur des oignons frits, les enfants font leurs devoirs assis par terre ou sur un bout de canapé. Tous ont, paraît-il, de bons résultats scolaires. Mais cela ne suffira pas à leur garantir une place dans les meilleurs collèges, dont les tarifs sont désormais hors de prix. Témoins ces nouveaux cabinets qui fleurissent dans les quartiers aisés et qui proposent de préparer les enfants aux entretiens préliminaires qu'exigent les établissements de premier choix. Tarif de ce bref coaching particulier, 28 995 $. Même Dieter saurait faire la division, un montant équivalent à 15 années de l'aide publique que lui verse l'État de Californie.
Eh bien, c'est ainsi que se termine notre émission. Merci Hervé pour ces textes sur l'Amérique, ces textes tout à fait édifiants.
N'est-ce pas?
Un peu, comment dire, un peu inquiétant quand même. Je comprends,
oui,
le titre à l'Amérique,
vrai,
mais
oui.
Ça m'inquiète. Alors, on sent à un moment donné que les textes sont un peu anciens quand ils parlent de l'automobile florissante à Detroit.
Oui, à Detroit. Ah, c'est comme ça que ça se dit en américain.
Detroit.
J'ai ouï dire tout de même que l'industrie automobile avait redémarré un petit peu de ses cendres.
Un petit peu, mais pas à la mesure de ce qu'elle était
tout à fait
au siècle dernier. Eh bien, merci.
Mais
Hervé,
les problèmes d'eau, ils sont tout à fait actuels encore aujourd'hui en 2019.
Ah oui.
Et ils seront de plus en plus.
Et ils vont s'accroître, c'est sûr. Oui. Quand ils parlent d'une pénurie d'eau en 2030, c'est demain 2030. C'est demain. Bien, merci chers auditeurs de votre attention. Merci Hervé. Chers auditeurs et auditrices, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Et Hervé, je te pose la question rituelle. Quel sera le prochain roman que tu vas nous lire?
Et je vais te répondre rituellement.
Je n'en sais rien.
Aucune idée.
Bien, eh bien...
Ah mais ça, là, le mois prochain, il faut le dire quand même, ce sera Catherine Bonny qui lira une nouvelle. Parce que dans cette émission depuis l'année dernière, on est donc 2 lecteurs, Catherine Bonny et moi-même, en alternance.
Très bien. Eh bien, au revoir Hervé.
Au revoir.
Au revoir chers auditeurs. Et au mois prochain.